Africa Radio, l'invité Nadir Djennad.
Emmanuel Dupuis, bonjour.
Bonjour Nadir.
Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin dans nos locaux d'Africa Radio. Vous êtes le président de l'IPSE, l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe. Les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain. En effet, le 9 juin, nous sommes appelés aux urnes pour désigner les 81 députés européens français qui siégeront au Parlement à Strasbourg pour les 5 prochaines années. Ces élections vont se dérouler dans un contexte de tensions internationales entre la Russie et l'Ukraine d'une part, et puis les tensions au Proche et Moyen-Orient. Emmanuel Dupuis, dans ce contexte, est-ce qu'il est plus que jamais nécessaire d'avoir une Union européenne forte face aux menaces ?
Oui, je crois que c'est sans doute le leitmotiv de ces élections, bien que personne n'en parle vraiment dans une campagne qui n'a pas vraiment commencé. On est plutôt dans la lutte des égos. On oublie surtout, comme vous l'avez rappelé, et vous avez raison de le faire, qu'on élit 81 députés et non pas une tête de liste. Parce que pour l'instant, on a vraiment l'impression que le débat se cristallise autour de Jordan Bardella pour le Rassemblement National, autour de Valérie Ayer, qui a une campagne un peu molle, si je puis m'exprimer ainsi, pour le camp présidentiel, et bien sûr, François-Xavier Bellamy pour les Républicains, ou encore Raphaël Glucksmann pour le PS. Mais il faut quand même rappeler que le Parlement européen joue un rôle important.
Oui.
Le Parlement européen, premièrement, c'est le processus législatif européen qui permet de légiférer sur les grandes directives qui ensuite seront traduites en droit français. Il faut peut-être rappeler aux auditeurs que 80% des lois que nous avons dans notre pays, que nous votons, sont la résultante d'un processus communautaire. Donc ça veut dire que ça va impacter sur notre quotidien.
Oui. Alors dans une tribune que vous avez co-signée avec notamment Hervé Morin, président des centristes et ancien ministre de la Défense,
et président de la région Normandie.
Et président de la région Normandie, vous dites qu'une Europe puissante, c'est la condition de notre sécurité nationale. Est-ce que ce sont des élections qui seront majeures pour la survie, le mot est peut-être fort, mais en tout cas pour la crédibilité de l'Union européenne ?
Surtout pour la sécurité d'un certain nombre d'Européens qui se trouvent face à une menace directe. Il faut quand même avoir à l'esprit que les élections européennes vont concerner 450 millions de citoyens, 27 pays, mais dont certains sont sur la ligne de front. La Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, les trois pays baltes, la Finlande et bien évidemment la Pologne, ligne de front avec l'Ukraine. Tension permanente avec la Biélorussie et une tension palpable depuis quelques mois, évidemment, avec la Russie.
Alors, en France, de nombreux sondages prédisent de très bons résultats pour le Rassemblement national. Quelles seraient, selon vous, les conséquences d'un renforcement des formations politiques les plus radicales et les plus hostiles au projet européen, à l'heure où le besoin d'unité est impératif ?
Alors, c'est paradoxal. Effectivement, les mouvements conservateurs et ultra-conservateurs, ce qu'on a habitude de qualifier ici d'extrême droite, le Rassemblement national ici, le Fidesz en Hongrie, Chega au Portugal, Vox en Espagne ou l'AFD en Allemagne, que sais-je encore la Ligue en Italie, vont sans doute se renforcer, mais ils ne seront pas majoritaires.
Oui.
La majorité sera incarnée par les partis conservateurs de droite libéraux traditionnels. Donc en fait, il ne va pas y avoir beaucoup de changements de portage ou d'équilibre. Roberta Metsola, la présidente maltaise du Parlement, issue du Parti Populaire Européen, vraisemblablement, va garder la majorité. Donc ça ne va pas beaucoup changer là. Par contre, ce qui va changer, c'est premièrement le fait que les partis qui sont au pouvoir en France ou dans un certain nombre de pays vont être dépassés, voire concurrencés par des partis qui sont dans l'opposition. Donc ça va avoir un impact. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faille décliner le vote européen sur la vie politique française. Jordan Bardella, il y a quelques jours.
Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qui se fait en France, en tout cas?
Oui.
C'est-à-dire qu'on nationalise un peu plus ce débat.
Malheureusement, on est les seuls à le faire.
Oui.
Jordan Bardella est allé jusqu'à dire qu'il faudrait, le 9 juin au soir, avoir une dissolution de l'Assemblée nationale parce que le Parlement européen va l'amener à 30-35%. Ça n'a aucun sens. On élit des députés européens, on n'élit pas des députés nationaux qui vont légiférer sur les questions européennes.
Alors nous le disions, ces élections vont se dérouler dans un contexte de tensions internationales. Il y a la Russie, l'Ukraine, le Proche-Orient. Est-ce que sur les conflits russo-ukrainiens et israélo-palestiniens, l'Union européenne a été un acteur déterminant pour faire baisser les tensions ou a-t-elle été impuissante, finalement ?
Alors, elle a été puissante dans le sens où elle a permis de voter 50 milliards d'euros que l'Union européenne va donnée à l'Ukraine pour les 4 prochaines années. Elle a été solidaire dans le front de résistance et la résilience européenne face à la menace russe. Elle a été un peu moins présente sur le conflit israélo-palestinien, même s'il y a une unité qui n'est pas encore fissurée, appelant à une solution à deux États, appelant à un cessez-le-feu humanitaire, voire même à une reconnaissance de l'État palestinien, résolution qui a été proposée il y a quelques heures sous présidence de justement de la République maltaise.
Alors justement sur le conflit israélo-palestinien, l'Union européenne a émis vendredi dernier des sanctions contre deux organisations juives et quatre colons israéliens accusés de violations graves des droits de l'homme à l'encontre de Palestiniens de Cisjordanie. Alors pensez-vous que ces sanctions soient efficaces ?
Je ne suis pas certain qu'elle soit mise en place, surtout.
Oui.
C'est purement symbolique. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de mobilisations et nationales dans les pays qui ont voté ces sanctions, dont la France, je le rappelle. Et bien évidemment, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a convoqué l'ambassadeur de France en Israël, tout comme ses homologues allemands et britanniques, si je ne m'abuse. Donc c'est bien au-delà seulement de la seule dimension européenne. Aussi par rapport à la question de la reconnaissance immédiate que la France voulait, unilatérale, de la Palestine. Donc bien évidemment, ces sanctions contre des colons sont peut-être beaucoup moins efficientes que celles émises par le Congrès américain, qui, de la même manière, a voulu aussi symboliquement dire à Benjamin Netanyahou que, premièrement, il devait tout faire pour... Enfin, nous devions tout faire, et lui devait prendre en compte le fait de cesser tout de suite ce conflit à Gaza.
Alors, on reste dans la région, au Moyen-Orient, où il y a de fortes inquiétudes au sujet d'un conflit ouvert entre Israël et l'Iran. Après les explosions ayant visé une base militaire près d'Ispahan en Iran et attribuée à l'État hébreu en fin de semaine dernière, l'Iran peut-il frapper de nouveau ?
Oui, bah d'ailleurs, il y a quelques heures, il l'a fait, indirectement, puisqu'on a la preuve de combats indirects entre des proxys, ce qu'on appelle des proxys, enfin des milices ou des organisations terroristes proches de l'Iran, en Syrie, qui ont frappé des camps ou ont tenté de frapper des objectifs liés à la présence américaine ou la présence française, que ce soit en Irak ou en Syrie. Donc oui, indirectement, depuis la Syrie, par le corps des gardiens de la Révolution, ou depuis le Liban Sud, par le Hezbollah, indirectement, l'Iran peut toujours continuer à frapper Israël. Elle l'a montré aussi, il y a deux semaines de cela, qu'elle peut frapper directement, même si on n'est pas dans une logique œil pour œil, dent pour dent. Oui. Là, pour l'instant, ça s'est un peu tassé. Chacun a pu montrer sa capacité capacité de frapper ou sa capacité donc de protection de son territoire, de sa capacité de dissuasion conventionnelle. Un ou balle au centre.
Alors, samedi dernier, la Chambre des représentants américaine a décidé d'une nouvelle aide en faveur de l'Ukraine, 61 milliards de dollars. La CIA avait averti que l'Ukraine pouvait perdre la guerre en 2024. Alors, qu'en pensez-vous ?
Alors, évidemment, les États-Unis étaient attendus. Ces 60 milliards de dollars, 57 milliards d'euros sont déterminantes pour permettre à l'Ukraine de résister dans un laps de temps court. Le problème, c'est que cette enveloppe a été votée il y a quelques heures. Elle mettra du temps à arriver concrètement sur le terrain. Donc il faut tout faire pour livrer les munitions dont ont besoin urgemment les Ukrainiens. Les quelques 2 millions d'obus que la République tchèque et l'Estonie, par exemple, ont décidé de livrer le plus rapidement possible. L'Ukraine a besoin de systèmes de défense anti-aérien patriotes tout de suite. Donc en gros, en résumé, c'est pas tant de l'argent dont il s'agit, c'est de la capacité d'amener sur le terrain prosaïquement et concrètement des systèmes d'armes dont les Ukrainiens ont besoin face aux tentatives, évidemment, de contre-offensives ou d'offensives russes maintenant, malheureusement, en cours depuis près de 3 ans.
Emmanuel Dupuis, pensez-vous que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine peut avoir une incidence sur le vote des Européens le 9 juin prochain ?
Oui, mais il aura une incidence positive. On reste encore... On reste malgré tout conscient qu'il faille se défendre face à une Russie de plus en plus agressive. 57% des Français interrogés sont prêts à défendre leur territoire, et c'est heureux. Donc bien sûr que ces questions auront une incidence sur notre quotidien, notre souveraineté, notre autonomie stratégique, la capacité de se défendre, et surtout la capacité de dire à nos contendeurs ou nos adversaires russe aujourd'hui, chinois peut-être demain, que nous sommes et nous restons unis. L'Union européenne est une force géopolitique.
Emmanuel Dupuis, merci beaucoup d'être merci venu vous, nous voir bien. Ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe.
Retrouvez l'invité Africa Radio en podcast et sur africaradio.com avec Nadir Djennad.